Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, quatrième conversation de notre semaine sur l'aveu, consacrée ce soir à l'aveu collaboratif avec Stéphane de Navacelle, avocat. L'aveu peut recevoir plusieurs significations, nous l'avons vu, il peut également remplir plusieurs fonctions. Un aveu stratégique, bien loin des représentations précédentes. C'est ce qui se passe pour le règlement des grandes fraudes commerciales, aussi bien au plan interne qu'au plan internationales, qui sont d'ailleurs de plus en plus confondues. Dans ces affaires, la puissance publique convertit sa capacité d'enquête, sa puissance de faire la vérité et son monopole punitif en une pression sur les entreprises pour qu'elles troquent l'aveu de leur turpitude contre des amendes plus douces. C'est donc un voyage dans cet univers du business international ou du gros business national que je vous invite ce soir avec pour guide un avocat international. Stéphane de Navacelle, bonsoir.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous êtes avocat à New York et à Paris et vous avez fait une spécialité du règlement des conflits via une nouvelle forme d'aveu, c'est ce qu'on va voir, que l'on pourrait appeler l'aveu collaboratif. Expliquez-nous comment ça se passe.
Eh bien, en réalité, c'est une approche très différente de celle que nous avons chez nous en France.
Parce que chez nous, on a commis une faute, la police fait une enquête, on se fait piquer, passez-moi l'expression, et puis ensuite on va chercher un avocat pour avoir la peine la plus douce.
Voilà, c'est ça l'idée. Et traditionnellement, puisque les outils français, de la procédure française, ne vous offraient pas cette possibilité finalement de transiger de façon pertinente d'un point de vue du business, d'un point de vue de l'action commerciale, dans certains cas même sans avoir à reconnaître sa culpabilité, dès lors qu'on reconnaît les faits, tout cela, c'est nouveau, ça n'existait pas. Et donc la bonne stratégie, pour l'essentiel, était défendre par le truchement de tout ce que l'on pouvait trouver de procédural ou de toute justification qu'on pouvait aller chercher pour retarder l'audience, pour retarder la procédure, parce que en fait, coopérer, aller de l'avant, ne portait aucun avantage.
Bah, on coopère pas avec la police en France. C'est pas dans la tradition nationale, Stéphane de Navacelle.
Non, effectivement, Antoine Garapon, c'est quelque chose qui est très curieux. Et aujourd'hui, quand vous parlez à des clients français et que vous leur dites, il y a maintenant des outils qui vous permettent d'aller de l'avant pour résoudre vos problèmes dans un temps qui est le temps des affaires, c'est-à-dire le temps de l'immédiateté, plutôt que d'attendre parfois jusqu'à 10, 15 ans pour résoudre un dossier complexe, et qui est pour cela, il faut finalement réunir les éléments et les communiquer à une autorité. Il vous regarde de travers et vous dit, mais qu'est-ce que c'est que cet avocat balance?
Oui, c'est ça. Mais alors, il faut aussi, avant de rentrer dans le détail de ces actions, il faut aussi dire que la France poursuivait pas tellement des grosses entreprises. Elle hésitait un petit peu. C'était pas si fréquent que ça. Alors qu'aux États-Unis, ça arrive plus.
Oui, absolument. Peut-être prenons un instant pour parler de ce sujet, notamment sur la problématique de la corruption.
Oui, la centrale.
Les États-Unis, depuis le 11 septembre, ont radicalement changé leur approche sur vis-à-vis du reste du monde et ont décidé qu'ils voulaient savoir d'où venait l'argent. Ils ont bien vu qu'on ne pouvait pas, sans contrôler l'argent, vraiment contrôler le monde. Les grosses armées ne suffisaient pas. Et donc, ils ont utilisé les lois qu'ils avaient, qui est cette loi FCPA, le Foreign Corrupt Practices Act, qui est la loi anticorruption, pour aller chercher la responsabilité d'entreprises et de dirigeants de ces entreprises à l'étranger.
Donc, et pour essayer de contrôler plus finement et de radiographier, en quelque sorte, le business mondial.
C'est un outil de politique étrangère, c'est une arme de guerre économique, ça va sans dire. Et ils ont commencé à donner de très lourdes condamnations contre les entreprises, notamment européennes, en utilisant l'argument moral. L'argument moral étant... on est tous d'accord que la corruption est une chose mauvaise, et personne ne s'en occupe sauf nous, puisqu'on a peu ou pas de condamnations. Et en France notamment, on avait...
On n'était pas très brillant quand même.
Pas très brillant, et mis en cause régulièrement par l'OCDE dans ses rapports. Et donc les Américains nous disent « If not us, who ?» Si nous ne le faisons pas, qui va le faire ? Et donc c'était leur argument moral. Et ils ont tapé sur les entreprises européennes, ils ont d'abord tapé sur les Allemands, qui ont fait évoluer leurs règles, sur les Anglais, dans le cadre d'une procédure qui concernait leur entreprise de défense BAE, hein, British Aerospace, où les Anglais n'ont pas poursuivi l'enquête qui portait sur un contrat en Arabie Saoudite. Ils ont fait le choix de ne pas poursuivre l'enquête, et donc les Américains ont dit, si vous ne le faites pas, nous on va le faire. Ils l'ont fait, ils ont sanctionné l'entreprise pour plusieurs centaines de millions, et donc les Anglais ont dit, mince, il faut qu'on reprenne
la souveraineté sur ces affaires.
C'est exactement ça, voilà,
oui.
Voilà.
Et bien c'est arrivé en France aussi.
Oui. Mais vous avez parfaitement raison, Antoine Garapon. Ce qui s'est passé, c'est que les Anglais l'ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont appelé The Bribery Act, et nous avons fait Sapin 2. Sapin 2, ça vient à la suite de quoi ? Des sanctions contre Alstom, des sanctions contre Technip, des sanctions contre Total, des sanctions contre la BNP, même si...
Oui, c'était un autre dossier, c'était la grosse amende, blocage. Oui.
La grosse amende BNP, c'était sur des questions d'embargo, sur des questions. Mais vous avez parfaitement raison, Antoine Garapon. On est là, on suit finalement le rythme. Et qu'est-ce qu'on fait ? On reprend le contrôle sur nos entreprises, sur notre souveraineté, parce que un État de droit, c'est aussi un État qui sait s'occuper des siens.
Mais oui, qui doit s'occuper des siens. Mais Stéphane de Navacelle, on va s'occuper des nôtres, mais en inaugurant une nouvelle manière de faire. Cette nouvelle manière de faire, c'est de donner des incitatifs à l'aveu. De dire, vous avez commis des turpitudes, n'attendez pas qu'on les découvre, venez nous voir, et on sera gentil avec vous. C'est ça, finalement, l'aveu collaboratif.
Oui, c'est assez bien résumé, et peut-être que nous pourrons parler tout à l'heure des dangers que ça représente.
Alors, on va commencer par raconter comment ça se passe, parce que c'est tellement nouveau qu'un certain nombre d'entreprises françaises, et même de magistrats, d'ailleurs, et d'avocats, se sont dit, mais c'est pas possible, nous, on va pas... Nous, on est là pour défendre des individus, pour défendre des sociétés, pour trouver des arguments, pour ne pas servir, en quelque sorte, à la condamnation de notre propre client. Alors comment ça se passe, Stéphane de Navacelle ?
Ça se passe par... alors, il y a plusieurs façons d'approcher le sujet, mais partons du principe qu'on est en contact avec une autorité de poursuite, un procureur, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Mais nous étions assez réticents sur la chose en France, et notamment dans les pays de droit civil de façon générale. Ça se passe de la façon suivante. On se met d'accord avec une autorité de poursuite, que soit un procureur, par exemple. Et il y a un mois et demi de cela, un client a reçu une demande d'un procureur français qui lui dit « Veuillez s'il vous plaît nommer un cabinet d'avocats spécialisé dans les enquêtes pour que celui-ci fasse une enquête et me rende compte des conclusions de cette enquête à telle date. »
C'est une sorte de gouvernement indirect. Je ne fais pas l'enquête moi-même, mais je vous demande que vous mandatiez un avocat à vos frais, sous-entendu, pour faire une enquête interne de façon à me révéler s'il y a eu des turpitudes ou pas.
Exactement. Et l'enquête interne va se conduire généralement selon plusieurs étapes. D'abord, on va préserver la preuve en communiquant à toutes les personnes concernées. On part souvent de l'organigramme et on leur dit « Mais écoutez, voilà, je vous demande de ne pas détruire, effacer, de quelque façon qu'il soit, quel que soit le support, un certain nombre d'éléments. »
Qui était un peu une mauvaise habitude, d'ailleurs, dans les entreprises auparavant. Je ne vous demande pas de faire d'aveu à votre tour, Stéphane de Navacelle. mais il y avait des papiers qui disparaissaient quand même avant.
Avant et encore aujourd'hui, Antoine Garapon. Vous voyez, les gens n'ont pas forcément compris l'intérêt d'aller de l'avant. Parce que c'est un changement de paradigme, parce que c'est un changement d'approche de la solution. Dans cette approche que vous avez appelée l'aveu collaboratif, c'est une approche qui veut avoir un souci d'efficacité. Efficacité pour le parquet, efficacité pour l'autorité de poursuite. Donc efficacité dans le sens peut-être commercial, mercantile, et peut-être méprisable, je n'en sais rien.
On en parlera ensuite, mais du point de vue moral.
Mais l'objectif, c'est clairement, pour le parquet, d'avoir une justice efficace, qui va permettre de rentrer des fonds, bien sûr, mais aussi de sanctionner financièrement la faute. Et pour l'entreprise, de résoudre dans un espèce de dérapage contrôlé le problème qui va peser sur le bilan, ainsi de suite.
Alors oui, et puis de le résoudre rapidement, de tourner la page, de ne pas rester avec cette épée de Damoclès pendant des années, être obligé de provisionner ce qui n'est pas bon pour une entreprise.
Ce qui n'est pas bon et ce qui est très mauvais en termes d'image. Vous voyez, vous avez mentionné, Antoine Garapon, la provision, il y a aussi le moral des troupes. Oui. Quand vous avez une enquête qui dure, si tout le monde guette la perquisition, si vous êtes là à devoir prendre des précautions qui vont vous empêcher de parler librement, ainsi de suite, c'est aussi du perte du chiffre d'affaires, parce que vos salaires ne sont pas concentrés sur le développement du chiffre d'affaires. C'est aussi catastrophique d'un point de vue réputationnel, parce que si vous êtes l'entreprise qui paye les pots de vin, et que ça ressort dans la presse tous les mois, que vous soyez dans n'importe quel pays du monde, où il y avait des entreprises qui sont des marques par elles-mêmes, et si une petite filiale qui représente rien dans le chiffre d'affaires provoque ou participe à un schéma de corruption, eh bien c'est l'ensemble du groupe qui doit réagir, ainsi de suite.
Et puis ça fait une économie de force de police, c'est-à-dire que c'est autant d'enquêtes faites par les entreprises, ce sont des enquêtes en moins faites par nos forces publiques qui sont malheureusement de plus en plus rares. Donc c'est gagnant-gagnant comme sortie de crise.
C'est gagnant-gagnant, mais ça ne s'applique pas à tous les cas de figure.
C'est-à-dire, vous parlez toujours des affaires commerciales.
On est toujours dans les affaires commerciales, mais dans les affaires commerciales, il y a des individus, il y a des personnes physiques dans ces entreprises. Et notamment quand il s'agit du dirigeant, lui n'a pas cette option de transiger par les nouveaux outils que sont...
Pour lui, pour sa responsabilité
pour
personnelle.
Parce que lui va devoir, la loi Sapin 2 auquel nous faisons référence ou allusion sans la nommer, ne permet pas de convenir d'une transaction sans culpabilité pour les personnes physiques. C'est uniquement pour les entreprises.
Mais ça, est-ce que c'est pas un problème? Parce que les entrepreneurs, ils ont fait ça pour le plus souvent pour l'entreprise, pour le bien de l'entreprise, pour pouvoir décrocher un contrat, pour se présenter dans de bonnes conditions devant leurs actionnaires. Là, on n'est pas du tout en termes d'enrichissement personnel. On réfléchit sur l'hypothèse où ils ont truqué, en quelque sorte, un marché. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu une injustice, Stéphane de Navassel, pour l'avocat que vous êtes, l'avocat des personnes que vous êtes, de se dire, on va trouver un statut qui est favorable pour les entreprises, l'entreprise va avouer, l'entreprise personne morale va avouer, mais les hommes, ils continueront d'être exposés à des poursuites personnelles.
Vous avez touché le cœur du problème, Antoine Garapon, dans cette dichotomie entre la personne physique, les deux justiciables,
c'est
le justiciable personne morale et le justiciable personne physique. Et on voit bien qu'avec cette loi, qui a été une loi, quand on voit les travaux parlementaires, qui n'était pas du tout motivée par un sentiment de justice, mais vraiment par un sentiment de géopolitique.
Oui.
L'objectif,
pour arrêter que les Américains fassent le ménage chez nous.
C'est une question de souveraineté. Et on le voit dans les débats parlementaires. Et d'ailleurs, l'agence anticorruption, l'agence française anticorruption, l'AFA, qui a été créée par cette loi Sapin 2, rend compte non pas juste au ministère de la Justice, mais au ministère de la Justice et à Bercy. Donc vous voyez que c'est un instrument de géopolitique. Ils n'étaient pas à l'aise. Et donc, ils ont voulu un compromis comme un compromis qui était nécessaire, mais ne pas aller jusqu'à la compromission d'accepter les mêmes droits pour les personnes physiques.
Mais bon, en même temps, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que maintenant, on est toujours sous contrôle américain et sous contrôle, à vrai dire, de nos principaux partenaires économiques. C'est-à-dire que la nouvelle manière de faire du business, je parle sous votre contrôle, Stéphane de Navassel, c'est de le faire le plus honnêtement possible et d'intégrer notamment la lutte contre la corruption dans les mœurs, dans la culture de l'entreprise. Et bon, ça c'est en train de prendre, selon vous?
Il faudra probablement une génération pour que ça prenne vraiment bien.
C'était Elagamandi.
Oui, ça prendra un temps certain. La vérité, c'est que quand on fait 100 euros de chiffre d'affaires en versant des pots de vin ou avec d'autres fraudes, avec d'autres combines, avec des collusions, on pense au droit de la concurrence, eh bien, ça vaut en réalité bien moins que les 100 euros. Ça vaut peut-être 50 ou 10. Alors que si vous faites 100 euros avec un système de mise de conformité, avec des contrôles internes, avec une vraie volonté qui découle du dirigeant de l'entreprise et des valeurs de l'entreprise, eh bien, ces 100 euros-là, ils valent infiniment plus. Et vous valorisez votre entreprise. Simplement, il y a une transformation, il y a une évolution de culture, il y a des choses à mettre en place. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps.
Mais Stéphane de Lavasselle, ça veut dire qu'en fait, ça marche bien quand l'intérêt économique rejoint l'intérêt moral de tous, d'ailleurs de l'entreprise et nous tous, pour lutter contre la corruption, ou plutôt l'inverse, quand la morale valorise un peu plus encore l'économie.
Oui, c'est un souci d'efficacité économique. Vous avez dit tout à l'heure, on est dans une situation de négociation qui se dit pas, mais de discussion en tout cas avec une autorité de poursuite, avec un parquet, ainsi de suite. L'évolution ici, c'est qu'on écarte en réalité d'une certaine façon le droit.
Pour aller... La recherche de la vérité et la punition, qui sont quand même les marqueurs fondamentaux qui étaient de notre justice pénale.
Alors il y a un filtre en France, parce qu'il faut passer par une audience d'homologation où les victimes, s'il y en a, peuvent s'exprimer. Aux États-Unis, dans l'essentiel des cas, vous n'avez plus de contrôle du juge, puisque les quelques juges qui ont voulu imposer un contrôle pour déterminer si c'était ou non dans l'intérêt général de passer une transaction telle que celle-là, ont été recalés en appel. Donc on se retrouve, outre-Atlantique, dans une situation où on a des transactions en matière de droit pénal lié à l'activité économique, au monde de l'entreprise, mais aussi dans toute la société, on se retrouve avec des dossiers qui se résolvent à 95%, plus de 95%, par des transactions. Donc on perd le droit, parce que c'est la peur de la sanction qui va vous faire signer quelque chose que vous n'auriez pas signé sinon. Donc c'est couplé avec des très lourdes sanctions qui vont être considérablement amoindries dès lors qu'il y a une repentance.
C'est ça, c'est adossé quand même à des menaces, quoi. On parle pudiquement de contraintes, de deals, de justice. C'est-à-dire qu'on vous met entre les mains la possibilité d'avouer tout de suite vos turpitudes et négocier avec l'autorité fédérale américaine. Mais en réalité, c'est véritablement une pression. Vous n'avez pas tellement le choix, Stéphane de Lavasselle.
Écoutez, Antoine Garpon, vous parlez des États-Unis. Il y a deux pays dans le monde qui font exactement ce qu'ils veulent. C'est les États-Unis, bien sûr, et puis la Chine, parce que la moitié de tout ce qui est sur moi et ce qui est dans ce studio est fabriqué en Chine, et tout le monde a besoin du marché, de la puissance économique américaine. Donc, ils imposent, mais en droit, on perd beaucoup de choses. On perd notamment et en premier lieu la jurisprudence. On perd le droit.
Puisque le droit français.
On perd le droit américain. Il n'y a plus de décision qui vous permet d'évaluer pourquoi est-ce que vous avancez, pourquoi est-ce que vous allez transiger, quelle est la réelle peine encourue si on allait jusqu'au bout. Et puis, on perd le droit français parce que justement, c'est le droit américain qui s'impose.
Alors, si je vous entends bien, vous êtes avocat, vous avez été formé en droit américain, en droit français, ça demande des études très poussées, mais votre job, on est vraiment dans les américanismes, votre travail auprès des clients, c'est purement stratégique, Stéphane de Lavasselle, c'est purement stratégique. Vous allez leur dire, ben voilà, vous avez intérêt, on parle plus du droit, on parle plus du bien commun de la vérité, vous avez intérêt à suivre telle voie pour vous en sortir plus rapidement avec à moindre frais.
Le rôle de l'avocat, c'est de ne jamais décider. Ça, c'est le rôle du client, de trancher. Le rôle de l'avocat, c'est d'expliquer et de lui donner tous les éléments qui vont lui permettre de prendre sa décision. Et on donne aujourd'hui un poids plus important aux considérations d'ordre économique, évidemment. Parce que si on arrive à régler un dossier en 2 mois ou en 3 mois par le biais d'une enquête interne, eh bien, on permet à l'entreprise d'aller de l'avant, on rassure les actionnaires, on élimine le risque, et le risque, c'est ce qui est le plus grand frein au développement des affaires. Parce que même une situation catastrophique, eh bien, un homme d'affaires, il saura lui accorder un prix et décider d'y aller ou pas. Donc en fait, ça élimine le risque. Mais on va prendre en compte tous ces différents éléments dont nous avons déjà parlé et d'autres pour lui permettre de prendre sa décision. C'est plus juste une question de, écoute, en droit, ça peut marcher, ou il y a telle jurisprudence qui colle ici, ou il y a tel autre élément à prendre en compte. Là, on va vraiment voir ça comme un risque économique, un risque pays, un risque...
Mais alors, Stéphane de Navassel, vous êtes avocat, donc vous êtes le cœur du métier, c'est la défense, et j'ai pris effectivement la responsabilité d'appeler cette forme d'aveu un aveu collaboratif, parce que les autorités américaines vous en demandent un peu plus. Elles vous demandent, on va travailler ensemble. Mmh. Vous allez nous raconter toute l'histoire. Hein. Et il y a même une expression, Queen for a day. Ça veut dire quoi, Queen for a day?
Queen for a day, c'est ce que les avocats, le terme que les avocats utilisent, Queen or King for a day, pour parler d'un proffer agreement. Le proffer agreement, c'est la confession en échange de quoi le procureur, l'autorité de poursuite, ne va pas utiliser ce que vous avez dit contre vous. Elle ne peut pas utiliser ce
mais
que vous avez dit contre vous.
Mais il peut l'utiliser pour d'autres choses.
Évidemment, on peut l'utiliser contre l'autre. Et si ces éléments-là permettent d'identifier d'autres preuves ailleurs, eh bien, tant pis pour vous. Donc, c'est un peu une situation de piège.
C'est un piège légal. Et alors, vous avez employé le mot de confession. C'est vous qui l'avez employé, Stéphane de Navassel. Le mot de confession, c'est-à-dire, il faut... il faut tout dire. Et vous avez intérêt à tout dire.
Si vous retenez quoi que ce soit, vous allez empirer votre cas. Et on a un cas aux États-Unis en ce moment même, qui est le cas de Michael Cohen, qui est l'ancien avocat du président Trump, dont on soupçonne en tout cas que l'enquête de M. Mueller, l'ancien président du FBI, soupçonne d'avoir rendu compte des interrogatoires au président Trump. Donc on est dans une situation où en réalité, il a signé un accord espérant avoir une peine amoindrie ou voire même annulée. Et il a joué un double jeu. Et donc là, il va prendre beaucoup plus.
Il va prendre beaucoup plus, mais on voit, et c'est quand même un système, là on est très très loin de notre culture, c'est un système dans lequel on prend quelqu'un de la chaîne, on lui met un marché entre les mains, vous collaborez avec nous, vous avez une peine réduite. La collaboration avec nous, c'est que vous allez, on dirait familièrement, vous mettre à table, vous allez nous raconter beaucoup beaucoup de choses, et puis après on va vous laisser tranquille, mais on aura de quoi inviter d'autres personnes à cette table pour qu'ils viennent raconter leurs petites affaires, et finalement comme ça, à moindre frais, uniquement par une économie de l'aveu et de la confession, on arrive à faire à enserrer et à menacer et à pénétrer des organisations très très complexes, mafieuses, comme peuvent l'être. D'ailleurs, il y a une affaire célèbre à New York, l'équipe de baseball, ou un état-major politique, ou une entreprise. Donc c'est un peu pervers, comme cette affaire-là, Stéphane de Navassel.
Pervers, oui. Alors, c'est un mot un peu fort, mais...
Non, je veux dire, il y a un côté piège, et vous-même...
piège, parce que si on choisit cette... La première décision qu'on doit prendre... non pas l'avocat, mais le client, c'est est-ce qu'il veut coopérer ou pas. Et pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur là. Et d'ailleurs, je ne pense pas que le dirigeant d'entreprise se dise c'est un jugement de valeur, c'est du bien ou du mal. Non, ils évaluent les conséquences économiques. Si on résiste, j'avais un client récemment, on a fait on s'est assis, il y avait une demande d'une autorité états-unienne, et il a fallu déterminer est-ce que c'était dans l'intérêt de l'entreprise de coopérer ou pas. Ben c'est très simple, on a listé les clients de l'entreprise et on a vu que les clients étaient des clients qui étaient très actifs sur le marché américain et que donc ceux-ci, s'ils recevaient l'instruction ou la moindre pression, couperaient immédiatement les flux financiers. Et donc on a vu que l'entreprise tiendrait 15 jours. Et donc, il n'y a pas photo, on est obligé de coopérer.
Alors c'est plus un choix moral, c'est un calcul.
C'est un calcul, c'est une décision business. 1, 2.
On the night I was born, my poor mama cried. She said, Lord have mercy on this man child. The devil screamed and he threw up both his hands. Said this boy was born to be a blues man, 'cause I'm a blues man. People hear what I got to say. And I grew up hard. You know, I grew up playing this here guitar. I've been around the world and I come back again. This six-string lady has been my best friend because I'm a blues man. Now you hear what I got to say? They watch me play.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Stéphane de Navassel, toujours avec la même frustration d'avoir à interrompre la musique, une musique aussi percutante d'Albert King, Bluesman. Pourquoi Bluesman, Stéphane de Navassel?
Bon, d'abord, ce titre était sur un album que mon frère aîné avait à Paris, enfin, quand j'ai vécu en France. Et il se trouve que je suis ensuite parti étudier à Chicago et je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. Le Bluesman, ce titre, c'est un titre autobiographique d'Albert King. Et dans le blues, il y a beaucoup de mélancolie. Je fais un métier où je mets à disposition du temps de cerveau. Et c'est ça être avocat finalement. C'est pas quelque chose qui se fait dans un bureau, sous la douche, on est avocat, en se rasant, on est avocat. Et on trouve jamais à se reposer, à poser sa guitare, justement, comme en parlait Albert King. Et donc c'est une chanson, c'est un album, Red House, qui m'a accompagné depuis 20 ans. Et c'est un peu comme Eddie Mitchell, la complainte, il a une complainte du businessman, je crois.
Parce que c'est quand même, c'est du blues aussi du businessman. Hein. vous accompagnez aussi le blues du businessman, Stéphane de Navassel.
Ouais, il faut trouver un sens à tout ça.
Le sens, il est d'abord économique. Vous le disiez, c'est du business as usual. Il faut que ça tourne. Faire cette grâce à son régulateur, on va collaborer avec lui parce que le principal, c'est la business continuity. Hein, c'est qu'on continue d'exister.
Les affaires sont les affaires.
Exactement. Voilà. Mais c'est pas très satisfaisant quand même.
Ça pose de vraies questions, oui. Notamment sur l'objet, mais au-delà du rôle de l'avocat et du monde des affaires. En réalité, est-ce que c'est vraiment en imposant des grosses amendes à des personnes morales qu'on va arrêter la corruption? Est-ce que vraiment là, on est en train de servir ce que l'on veut vraiment? Et puis, il y a des victimes dans cette histoire que sont les personnes physiques, que sont les employés, que sont... les personnes qui vont pas avoir les moyens nécessaires, la perspective, qui ne peuvent pas se reconstruire aussi facilement qu'une personne morale qui, elle, va un peu remplacer des salariés.
C'est un peu la revanche du business. Vous voulez nous faire pression sur nous pour qu'on collabore et qu'on vous raconte des tas de choses. Nous, on le fait pour le business, mais en le faisant pour le business, on n'intègre pas véritablement les valeurs qui sont portées par la lutte contre la corruption ou par la lutte contre la concurrence illégale. Parce que le propre de la justice, quand même, quoi, du moins j'y crois encore un petit peu, c'est que derrière l'idée d'abord de vérité, on va établir la vérité, la vérité des choses, et puis ensuite on va essayer par la peine, c'est sa dimension constructive, c'est-à-dire qu'on comprenne pourquoi nous avons tous besoin d'un marché propre, d'un univers sans corruption, et tous et surtout les plus humbles.
Vous touchez un grand nombre de sujets là, oui, Antoine. Oui. Garapon, je vais essayer.
J'en ai conscience.
De répondre à quelques-uns. Vous avez parlé de la vérité. C'est quelque chose d'essentiel. Quand on parle dans l'imaginaire populaire, on parle de vérité judiciaire. On parle de on a besoin de ce procès. Les victimes ont besoin de cette audience. Les Américains disent d'ailleurs a day in court. On a le droit de pouvoir. Voilà. Et dans la procédure française, l'audience d'homologation laisse une place à la victime si elle est identifiée. La vérité, c'est un truc très bizarre. Parce qu'en fait, il y a pléthore de vérités. Et en sortant d'ici, vous allez avoir une vérité sur ce qui s'est passé dans le temps que nous avons eu ensemble. Et puis moi, j'en aurai un autre. Et ceux qui nous écoutent verront encore autre chose.
Oui, mais ce seront finalement les auditeurs. C'est-à-dire que la vérité, c'est ce qui procède du regard public. C'est ce qui, finalement, c'est le regard public pour une audience comme pour une émission de radio qui homologue, qui certifie la qualité de ce qui s'est passé. C'est le sens même de la publicité des débats dans la justice.
C'est le contradictoire
qui
amène
aussi
la vérité. Et là, on est dans une situation où finalement, la vérité importe moins. Je ne dis pas qu'elle n'importe pas, mais elle importe moins. Puisque dans cet outil judiciaire qui nous est proposé, et encore une fois, qu'on a introduit, pas parce qu'on le voulait, on l'a fait vraiment à reculons, on l'a fait parce que c'est une nécessité de regagner une forme de souveraineté. En tout cas, c'est comme ça que l'ont exprimé les débats parlementaires. On est dans une situation où la personne morale, finalement, dès lors qu'elle va signer une transaction, où elle ne reconnaît pas de culpabilité, où elle reconnaît des faits uniquement, et que on lui dit tu n'auras pas les conséquences de la culpabilité. Les conséquences de la culpabilité, c'est l'interdiction de répondre à certains marchés publics, c'est éviter les contentieux qui se suivent d'une culpabilité pénale. Et ainsi de suite, on incite finalement à vider son sac. Et donc on vide son sac et les salariés là-dedans. Et les autres parties prenantes.
Oui, mais alors Stéphane de Navasselle, quand on dit, vous dites des faits, on les qualifie pas, on prononce pas le mot corruption dans l'affaire Siemens, on ne prononce pas le mot corruption, alors que mal nommer les choses, on pourrait dire, pour plagier Camus, ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, c'est-à-dire cette importance de dire, c'est la juridiction, c'est-à-dire que la justice se dit en nommant, à sa manière bien sûr, la réalité. Donc il y a un petit peu de pharisaïsme là-dedans.
Oui. Oui, absolument. Il y a aussi de la posture. Il y a aussi de la posture. Chacun y trouve son compte. La vérité, c'est vraiment, c'est comme la mémoire. Quand je suis assis avec un client et que je lui dis, de quoi est-ce que vous, de, quel est votre souvenir quant aux faits qui vous sont reprochés, quant à tel document qu'on vous présente, comment est-ce que c'est arrivé? Et la mémoire, elle est truquée par les documents, elle est truquée par le stress, elle est truquée par peut-être la question, la façon dont la question est posée. Et donc on se retrouve dans une situation où on se souvient de choses sans savoir vraiment pourquoi on s'en souvient. Et est-ce qu'on s'en souvient maintenant parce qu'on a vu un document, ou est-ce qu'on s'en souvient parce que ce que je dis à mes clients, c'est vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé le mois dernier. Mercredi, je ne sais pas si c'était mercredi, mais bon. Et donc, comment est-ce que vous pouvez vous souvenir de quelque chose d'il y a 3 ou 4 ans? Il y a deux possibilités. Soit votre président directeur général est venu vous faire l'accolade, et donc dans ce cas-là, c'est suffisamment peu que vous en souveniez encore aujourd'hui. Soit vous êtes rongé par le tourment.
C'est peut-être le baiser de la mort.
Et que vous dormez mal depuis. Donc, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on s'en souvient. Il y avait un événement particulier, c'était inhabituel. Parce que ça aussi, ça compose de la vérité. Donc il y a plusieurs vérités, et dans les procédures qui sont en train d'être mises en œuvre, c'est très important, dans ces enquêtes internes et ainsi de suite, que chacun ait un avocat, que chacun puisse finalement aller à confesse dans cette confidence nécessaire entre l'avocat et son client avant d'être entendu. Pour que le propos qui est tenu ne relève pas de la réaction, de l'effet de surprise.
Les philosophes Stéphane de Navasselle, ils disent qu'il y a deux formes de vérité. Il y a la vérité correspondance au réel, et il y a la vérité cohérence. On a l'impression que dans ces affaires dans lesquelles on va à confesse, comme vous dites, ce qui est important, c'est de présenter un récit cohérent, crédible, exhaustif peut-être, si possible, mais que c'est quand même plutôt une vérité opératoire, j'oserais pas dire stratégique.
Oui, c'est absolument nécessaire, et le fondement même de cette politique ou de cette procédure de l'aveu outre-Atlantique, c'est dans le rapport, comme vous venez de décrire, dans le rapport à la vérité. Parce que mentir en soi est une faute complémentaire, vous ne pouvez pas y aller. Vous êtes obligé finalement de vider complètement votre sac si vous voulez obtenir une forme de clémence. Faut avouer et à demi pardonner.
Et c'est un peu l'erreur qu'ont fait dans le passé certains Français notamment, ou certaines personnes qui sont étrangères à la culture américaine, c'est qu'ils arrivaient en disant « bon, je vais en donner un petit peu ». Non, il ne faut pas mentir aux États-Unis, et c'est extrêmement important, et le fait de tout dire est rétribué dans une peine plus douce ensuite, ou une amende moins importante.
Oui, les crédits de coopération.
Expliquez-nous comment ça marche, les crédits de coopération, Stéphane de Lavassel.
Il y a un tableau. Vous voyez, Antoine Garpon, vous avez un tableau à double entrée, avec des critères, des conditions, et en fonction des montants, de l'implication de la personne, eh bien, vous allez avoir des peines, des peines qui sont proposées par ce tableau qui s'appelle, vous pouvez le mettre dans un moteur de recherche et vous le trouverez, Federal Sentencing Guidelines. Ce sont un outil qui est utilisé par...
grille de peine.
Une grille de peine, exactement. Et la difficulté, c'est qu'on a cette grille de peine qui monte très vite. On n'a pas de jurisprudence pour nous dire si cette grille de peine correspond à ce qu'il y aurait vraiment.
C'est ça. Alors, ça, c'est quand même un comble. C'est-à-dire qu'on est avec des avocats, des autorités fédérales, en train de négocier sur des sommes considérables. Ouais. Tout le monde est juriste et on n'applique pas de droit. Et en réalité, ce qui est votre compétence, c'est bien sûr de connaître le droit, mais au-delà de savoir comment négocier. C'est une sorte de droit relationnel. Quoi, je parle sous votre contrôle, maître de Lavassel.
Non, absolument, Antoine Garpon. On fait quand même du droit. Si c'est prescrit, c'est prescrit. Oui. Voilà. Mais même sur la prescription, si vous waivez, comme on dit, on s'engage à ne pas faire usage de notre protection au titre de la prescription, eh bien, vous allez considérer comme étant encore plus coopérant, encore plus coopératif.
Donc plus de réduction.
Donc le droit est là, le droit est utilisé comme argument, mais à dire vrai, la menace, l'épée de Damoclès, surtout quand vous êtes une activité réglementée, par exemple, où on peut vous retirer votre licence. Et un retrait de licence, c'est une peine de mort.
Bien sûr, mais sur une entreprise, pour une banque.
Une institution financière, ainsi de suite. Ou alors, on peut vous dire, vous n'avez plus le droit de répondre à des appels d'offres. Quand vous êtes une entreprise qui a pour l'essentiel de clients des infrastructures ou des entités publiques, vous êtes foutu.
C'est ça.
Et puis, vous êtes obligé de vous justifier auprès de tous vos partenaires financiers. Enfin, voilà, ainsi de suite. Et ça n'arrête pas. Donc, pour revenir à la question du droit pur, c'est souvent les moyens qui vont être mis en œuvre par la personne morale pour mettre carte sur table, pour faire carte sur table, qui va peser dans la décision. C'est vraiment
pour montrer sa bonne foi, pour montrer sa bonne volonté de collaborer.
Exactement. Et parfois, on vous dit, mais vos lois françaises, vos lois nationales, c'est pas notre problème. C'est à vous de débrouiller-vous avec vos autorités.
C'est pas un peu d'impérialisme culturel, tout cela ?
C'est totalement un impérialisme. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois s'armer d'avocats dans chaque pays concerné, dans chaque pays où il peut y avoir des éléments de preuve, parce qu'il y a du droit local. Et ce que l'on voit, ce qu'on a vu récemment, c'est des États considérés comme petits ou pas intéressants, qui se rebiffent, qui
refusent de marcher dans la combine.
Qui refusent de marcher dans la combine. On voit par exemple outre-Rhin dans l'affaire du Dieselgate,
très importante en Allemagne. Oui.
Voilà, où Volkswagen a payé aux autorités états-uniennes pour couper court à tout une amende de plusieurs milliards. Et on dit c'est bon, c'est réglé, on vous paye tout, on avoue tout,
basta.
Tout est bon. Hop là, c'est fait. On va virer les gens qu'il faut. Hein, tout est fait. Et puis, le parquet de Munich a dit « Donnez-moi votre rapport là, que vous avez donné, donnez-moi ce que vous avez donné aux Américains. » Et Volkswagen, qui en Allemagne se comporte comme un Allemand, a dit « Mais attendez, secret professionnel, hors de question. » Eh bien, le parquet munichois a débarqué armé de
mitraillettes,
et ainsi de suite, à la traditionnelle, conduit une perquisition au sein du cabinet le cabinet américain basé à Munich, et a obtenu qu'on lui remette tout. Il y a eu un recours devant la Cour constitutionnelle allemande qui a validé le processus en disant que ce cabinet est une filiale de cabinet américain et donc ne peut pas faire des demandes fondées sur la corruption puisque ce n'est pas une personne morale allemande. Ce qui aussi envoie un message. Oui, si vous voulez venir chez nous, eh bien, ayez des personnes morales allemandes et respectez nos règles. Et jointe à la procédure, la société Volkswagen a été conduite également, puisqu'on lui a dit, c'est pas vous qui avez été perquisitionné, vous n'êtes pas la victime ici, circulez. Donc ils ont obtenu finalement tout.
Stéphane de Navacelle, vous avez été formé aux États-Unis, vous êtes avocat français et américain, quoi, et travaillant aux États-Unis. Ça veut dire que une de vos fonctions, c'est de jongler avec les cultures, pas uniquement avec le droit, avec les cultures, avec ce sens, cette prohibition du mensonge américain, avec cette puissance publique allemande. Et à chaque fois, à vos clients, il faut s'adapter à ces différents contextes.
Avec la façon de parler à un dirigeant d'entreprise indien que j'ai en ce moment. Et comment celui-là va travailler avec un avocat qui a une culture plus d'Afrique du Nord. Voilà, et comment est-ce qu'on gère la chose comme ça? Comment est-ce qu'on parle à une autorité en Afrique de l'Ouest qui vous demande quelque chose que vous voulez lui donner, mais si vous lui donnez, il faut lui donner en même temps que vous donnez aux Français, parce que sinon les Français vont dire mais pourquoi est-ce que tu lui donnes à lui et pas à moi? Et puis si vous le donnez aux Français, est-ce que ça veut dire que le secret professionnel ne s'applique plus? Les Américains peuvent l'avoir aussi. Donc il faut vraiment anticiper, finalement, à 2, 3, 4 bandes.
C'est un peu une course vers le bas, ça, Stéphane de Navacelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les garanties qu'offraient les États, qui étaient le fond d'un droit national, eh ben, elles s'effritent du fait de cette collaboration négative entre les États.
Collaboration négative, concurrence. Il y a une vraie concurrence entre les États, parce que les autorités de poursuite veulent regagner leur souveraineté. Et aujourd'hui, les droits nationaux s'estompent et on voit se substituer une norme, on parle de compliance en anglais, de conformité en français, et on parle donc de cette norme floue, changeante, qui effectivement porte atteinte à une forme de légalité de délits et des peines.
Et qui oblige les États à se réinventer juridiquement.
Et qui oblige les États à se réinventer juridiquement et à travailler de concert.
Et c'est, en tant qu'avocat, Stéphane Navacel, c'est un peu ce que vous faites. Vous défendez vos clients et vous essayez aussi, avec la communauté des juristes, d'essayer de que chacun comprenne les marques de ce nouveau monde dans lequel nous entrons, dans lequel nous sommes entrés, à vrai dire, depuis pas mal d'années maintenant.
Oui, Antoine Garapon, c'est exactement ça. Je suis avocat, oui, je suis traducteur, je suis diplomate, je suis médiateur. Et c'est ça l'évolution de notre profession, d'être au plus près de nos clients, de les comprendre et de les aider à décider.
Eh bien, on restera sur ce beau programme, Stéphane de Navacelle. Merci.
Merci Antoine Garapon, merci infiniment.
Matière à penser, Stéphane de Navacelle, Julien Douminc, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascal Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, nous clôturons cette semaine en nous intéressant à l'aveu reconstructif.
On tous un chèque, c'est ok. That's it. Ha ha.
des orgues.